Bonjour, bienvenue sur le plateau du Monde Moderne. Aujourd'hui, je reçois Hélène Chuan qui sort un livre aux éditions Erol sur le désarroi d'une jeunesse avec Jean-Hervé Lorenzi et Alain Villemeur. Vous êtes économiste. Vous avez écrit ce livre sur le danger qui est là sur le contrat social français, le lien entre les générations, l'avenir des retraites. Et aujourd'hui, vous portez un constat assez dur, mais vous apportez également beaucoup de solutions dans ce livre. Commençons par le constat. Est-ce qu'aujourd'hui, le contrat social français est devenu profondément inégalitaire?
Alors, c'est vrai qu'il y a eu un grand débat sur le contrat social français. Plein de personnes ont annoncé la fin de l'État-providence. On est quelque part à ce moment-là où il y a d'autres choses émergent, donc l'économie collaborative, tout le sujet de la dette fiscale. Et puis si on regarde de près le contrat social français, la promesse qui est contenue dans le contrat social français, c'est quand même une promesse de mobilité sociale. Aujourd'hui, elle n'existe pas, elle n'existe plus. Donc il y a énormément de chiffres sur le déclassement social des générations, il y a énormément de chiffres sur aussi cette part de richesse un peu captée par les plus de 60 ans. Et on verra que le... Et peut-être dans la suite, je vous dirai comment est-ce que justement cette captation finalement de richesse, elle ne se fait pas forcément au détriment des jeunes générations. Par contre, ce qui est vrai et ce qui est juste, c'est que les jeunes générations, la jeunesse en fait, elle n'a jamais été pensée dans le contrat social, puisque c'était une phase, si vous voulez, d'insertion, où l'insertion sur le marché du travail se faisait de manière quasi mécanique, avec la croissance, et qu'aujourd'hui le vrai sujet qui est posé, c'est un contrat social qui n'est plus nourri par la croissance, et qu'il faut quand même organiser la redistribution. Et donc, la redistribution, elle doit s'organiser autrement. Autrement sur la base de quoi? Et dans ce bouquin, ce qu'on propose, c'est une redistribution qui est organisée à travers justement ce contrat donnant-donnant entre les générations.
Donc, ce que vous dites aujourd'hui, c'est que la jeunesse n'a jamais fait partie de l'équation des politiques dans la façon dont on travaille sur l'emploi, sur la redistribution. Est-ce que la suite des Trente Glorieuses, est-ce qu'aujourd'hui on a une génération en fait de baby-boomers qui sont des enfants gâtés qui ne veulent pas partager leurs jouets?
Oui, alors effectivement on peut avoir ce regard-là sur la génération de baby-boom. Si, on regarde un peu les chiffres, on constate de manière un peu clair, ça s'est chiffré, qu'ils ont vécu sur une période de Trente Glorieuses, qui ont bénéficié d'une période de forte croissance, qui ont aussi eu le boom immobilier, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a une génération qui part à la retraite avec une parité de niveau de vie qui est organisée par le système de retraite. Donc ça, c'est une chance, c'est la chance du système de retraite français. Donc c'est en ça que le contrat social a bien fonctionné. Et en même temps, ils portent un regard assez sévère sur les jeunes générations, avec justement ces valeurs de travail et avec en brandissant justement la promesse du contrat social, alors que justement cette promesse n'existe plus. Donc ils leur disent continuez à cotiser à un contrat social qui ne vous promet plus rien. Par contre, la promesse qui nous a été faite par le contrat social, lorsque nous avons travaillé, elle doit être de maintenir le niveau de retraite au même niveau, elle doit être effectivement une pérennité du système de retraite. Donc quelque part, il y a une dissonance.
Pour eux, la promesse est tenue, pour les jeunes, ce n'est pas le cas. Il y a une vraie question sur ce modèle-là. C'est un modèle qui est quand même basé majoritairement sur le salariat. Aujourd'hui, on a beaucoup de débats sur la fin du salariat, sur la mutation vers davantage de contrats différents, d'indépendance. Est-ce que c'est quelque chose qui est possible? Est-ce qu'il y a aussi une mésentente des générations, c'est-à-dire deux générations qui ne se comprennent pas, et les politiques qui doivent faire un arbitrage et qui, majoritairement, sont du côté des plus âgés dans leurs choix politiques et dans leurs propositions?
C'est vrai que dans cet ouvrage, on a fait cette analyse sur le passé plutôt. Sur le passé, donc la période 79-2010, jusqu'à très récemment. Et ces mouvements, cette émergence de l'économie collaborative, aujourd'hui, elle n'émerge pas dans les chiffres. Par contre, elle change la donne sur le rapport au travail. Mais si on regarde la période passée de 70 à 2010, on regarde que le système a plutôt bien fonctionné pour les retraités actuels, mais qu'ils ont aussi constitué un vrai statut des retraités, qui deviennent un peu une classe intouchable. Donc c'est tout le débat sur les droits à la retraite. Donc ma retraite m'appartient. Ça, c'est le discours des retraités aujourd'hui. Or, ce n'est pas le cas. La retraite, elle est financée par les jeunes actifs. Sauf que la promesse qui est donnée aux jeunes actifs, aujourd'hui, elle n'existe pas. Et si on regarde fondamentalement le fonctionnement du marché du travail, le fonctionnement, le contrat social français, il était alimenté par la croissance jusqu'à les années 70, où ensuite, on a effectivement divisé la croissance par deux. Aujourd'hui, les perspectives de croissance potentielle, elles sont plutôt à 1,5. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a quasiment plus de croissance pour alimenter le contrat social. Ce qui veut dire que ce qui se passe aujourd'hui sur le marché du travail, c'est qu'on a à la fois cette augmentation de la période de vie générale pour la population entière, mais qui va bénéficier en premier lieu à la génération du baby-boom qui part à la retraite. On a 25 années d'espérance de vie à l'âge de 65 ans. Donc c'est formidable, c'est une super nouvelle. Sauf que cette augmentation de l'espérance de vie, elle joue aussi sur le marché du travail. On entre sur le marché du travail de plus en plus tard. Le temps d'accès au CDI, il est plutôt de l'âge entre 25 et 27 ans pour la jeune génération. Et de l'autre côté, les taux d'emploi, les taux d'activité des seniors sont relativement faibles, même si on a connu une forte progression dernièrement à cause des changements réglementaires qui ont fermé tous les arbitrages qui était possible en dehors du travail. Donc aujourd'hui, on a le choix entre se maintenir en activité ou aller au chômage, ce qui n'était pas le cas avant. Et donc, on a au deux bouts du marché du travail, sur la jeunesse qui s'insère et les seniors, quand même, à qui on demande de travailler plus longtemps, cette espèce d'injonction de maintenir le contrat social tel qu'il est pour une population quand même retraitée. Et donc, cette injonction, elle est complètement contradictoire, puisque à la fois, on leur dit qu'il faut s'insérer sur le marché du travail, et à la fois, on ne leur donne pas les moyens, on ne définit pas les conditions d'insertion sur le marché du travail. Et c'est ça qui est en train de se jouer, c'est définir les conditions sur un marché du travail qui change, avec, vous avez raison, l'économie collaborative, l'économie numérique qui émerge, avec ce mouvement aussi un peu frais là, des auto-entrepreneurs, des entrepreneurs, et tout le débat qu'aujourd'hui qu'on a sur l'ubérisation, sur l'économie collaborative, qui va fondamentalement changer la donne du rapport au travail, et donc à la fois ouvrir ce débat sur la protection sociale.
Parce que le problème, il est là. Un jeune sur quatre au chômage, et puis le chômage des plus âgés. On ne va pas embaucher quelqu'un passé 55 ans et encore moins à 60 ans. Mais pourtant, on veut allonger la durée du travail et on veut faciliter l'entrée des jeunes sur le travail. La loi travail, la loi El Khomri aujourd'hui qui est en débat, est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce qu'elle va être vidée de son sens? Qu'est-ce que vous avez, vous, comme vision par rapport au débat en cours?
Sur la première mouture, c'est vrai, de la loi El Khomri, quelque part, elle allait dans le bon sens puisqu'elle permettait effectivement de sécuriser un peu le licenciement. Donc elle facilitait quelque part les embauches aussi, notamment pour les petites entreprises. Sauf qu'il lui manquait quand même une contrepartie qui était assez claire et assez évidente, en tout cas lorsqu'elle est brandie comme une loi de la flexi-sécurité, c'est que cette contrepartie qui est censée être quelque part dans le CPA ou dans le compte personnel de formation et qui n'est pas complètement aujourd'hui, en tout cas annoncée, c'est pas écrit dans le marbre, qui est un peu la formation et puis aussi cette assurance contre la perte d'activité. Donc il y a ces deux pendants qui sont complètement liés dans le contrat de flexi-sécurité tel qu'on le voit dans les pays nordiques et qui n'existent pas aussi, aujourd'hui, en tout cas dans la mouture de la loi El Khomri, première version est réécrite aujourd'hui.
Donc, il y a un vrai désarroi des jeunes, c'est ce que vous dites. Ils se retrouvent aussi dans la radicalisation de la société. Le vote jeune FN, est-ce qu'il est aussi un pendant de cette difficulté d'accès au travail, de cette difficulté d'avoir une place dans la société?
C'est vrai qu'il y a un questionnement sur la radicalisation un peu de la société française qui tend à voter FN et la jeunesse en partie. Donc c'est vrai que c'est un mouvement général et qui concerne aussi la jeunesse. Et on s'en inquiète aujourd'hui parce qu'effectivement une partie de la jeunesse française se voit, en tout cas, il voit son destin dans cette espèce de radicalisation qui est en train de monter. Derrière, évidemment, on a une histoire longue de chômage, de marginalisation, de précarisation. Est-ce qu'il faut tout mettre sur le dos des 150 000 qui sortent tous les ans du système éducatif, qui font aujourd'hui un stock de 2 millions? Est-ce que c'est 20 ans de politique en faveur? Alors, en faveur, on le met entre guillemets, de la jeunesse qui font ça, ou c'est justement 20 ans de politique d'assistanat, et justement cette impensée de la jeunesse dans le contrat social, qui est aujourd'hui révélée? C'est vrai que le contrat social, en tout cas dans sa version initiale, dans sa version du pacte du CNR, aujourd'hui, il est un peu caduque. Il est caduque parce qu'il ne fonctionne plus. Il est caduque parce qu'il ne permet pas d'insérer à la fois cette jeunesse, dont la période de transition est de plus en plus longue, entre la fin des études et l'insertion sur le marché du travail, qui s'insère majoritairement en CDD, et ça, effectivement, il faut le souligner. Et cette insertion dans le CDD, elle se fait... Alors, elle se fait évidemment majoritairement pour ceux qui n'ont pas de diplôme. Et en même temps, on oublie de dire que le CDI, le décrochage du CDI, il se fait aussi mieux pour ceux qui sont plus diplômés, mais il se fait aussi de moins en moins bien. Et donc, ce déclassement générationnel, il est violent. Il est violent parce que c'est une espèce de non-dit de la société française. Et pourtant, les chiffres le disent. Aujourd'hui, il y a un quart des fils de professions intellectuelles et de cadres supérieurs qui sont ouvriers ou employés. Donc, il y a un vrai déclassement social. De l'autre côté, on a une espèce de polarisation du marché du travail dont on parle depuis un petit moment et une destruction des emplois dits routiniers. Donc c'est la classe moyenne qui est touchée. Et c'est aujourd'hui, enfin, donc le débat s'ouvre aujourd'hui. Sauf que le sujet de la marginalisation d'une partie de la jeunesse française, ça fait 20 ans que ça dure.
Ouais. Le débat, il s'ouvre aujourd'hui avec 20 ans de retard, en fait. Les politiques qui, aujourd'hui, ont encore en bouche cette idée du retour à l'emploi, l'inversion de la courbe du chômage, du travail pour tous, est-ce que c'est pas criminel, d'une certaine façon, de faire croire encore à la société qu'il y a du travail pour tous et que c'est possible? Et sans parler du fond, c'est-à-dire comment on renégocie ce contrat social avec le lien entre les générations et le transfert d'une classe à l'autre.
Alors, est-ce que c'est criminel? Le terme est peut-être un peu fort. Par contre, ce qui est vrai et le mensonge sur lequel on a vécu, c'est celui du retour de la croissance. Donc de penser que mécaniquement, finalement, en gardant le système tel qu'il est, que la croissance allait mécaniquement revenir et que le taux de chômage allait diminuer fortement et que les gens allaient retrouver un emploi, notamment, et un emploi salarié, effectivement, je pense que ce mythe-là, il est cassé quelque part, puisque effectivement, les taux de croissance ne reviennent pas, et qu'on est sur des prévisions de croissance potentielle de 1%, et plus personne n'y croit.
Sauf certains politiques voilà. qui continuent d'avoir
et
un
quelque
programme.
Part, la réalité a rattrapé le politique, puisque tout le mouvement d'auto-entrepreneurs, d'ubérisation, de ces chauffeurs, c'est que quelque part, ils ont trouvé un complément de salaire sous la forme de l'auto-entrepreneuriat ou de l'entrepreneuriat de manière pure et simple. L'économie collaborative, elle ouvre aussi d'autres voies. Donc il y a un vent nouveau qui souffle et qui interroge le système de protection sociale qui est construit autour du salariat. Et ça réinterroge aussi le rapport au travail, puisque c'est vrai, et on ne le souligne pas assez, aujourd'hui le salariat est brandi comme la valeur ultime, la fin en soi, un travail salarié à vie, protégé des aléas du travail,
ça,
de la maladie, du chômage.
Le discours des syndicats, qui voient beaucoup le travail comme le travail salarié.
Il est vrai. Et en même temps, il y a 5 ans, je pense que si on interrogeait la jeunesse, elle voulait encore être fonctionnaire. Oui. Aujourd'hui, entre-temps, il s'est passé effectivement ce vent nouveau d'ubérisation. Là, on a vu Uber décoller. On a vu aussi toutes ces espèces de plateformes collaboratives décoller aussi, où un jeune, avec une idée, avec quelques potes et avec un peu de sous, il peut monter, en tout cas, voir son idée se concrétiser. La vendre, j'en sais rien, mais en tout cas, voir son idée se concrétiser. Et ça, c'est un changement radical par rapport à la société du salariat qui est construite sur le diplôme. Et la société française, effectivement, qui est aussi construite sur le diplôme. Cette espèce de ségrégation qui se construit dès le système scolaire et qui ensuite sur le marché du travail ne permet pas de rattraper ces inégalités sociales de base. Avec l'économie collaborative, ce système qui fonctionne de manière statutaire sur le diplôme, il est quelque part complètement ébréché. Ébréché parce qu'aujourd'hui on fonctionne sur le système de compétences. Et c'est un peu l'exemple de Xavier Niel et de l'école de Free, où quand on... C'est complètement paradoxal. À un moment, il a juste dit, moi, le diplôme, je m'en fous. Ce qui compte, c'est les compétences. Et vous en avez ou vous n'en avez pas. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Si vous en avez, venez chez moi. Et je vais vous apprendre à coder. Et donc, ce qui compte, c'est la compétence de codage. Et ce que je rémunère, c'est ça. Avec l'économie collaborative, on bascule effectivement dans ça. Ce qui compte, c'est les compétences et les idées. Le diplôme, quelque part, ça ne présage en rien de bonnes idées. Et ça ne vous donne pas non plus une espèce de primauté sur ce marché-là. Alors... Ce qui est vrai, c'est que l'entrepreneuriat, ça reste encore élitiste et un peu sexiste. Donc, quelque part, c'est le reflet de la société française. Par contre, il y a quand même un changement de donne qui fait que la possibilité de mener son projet à bout et de venir et d'attendre, et ce que les jeunes un peu attendent, effectivement, de l'entrepreneuriat, d'avoir ce travail créatif et libérateur, elle est réelle, elle est là, elle est accessible.
C'est un mouvement, en fait, d'aucuns parlent de passer de l'emploi vers le travail, c'est-à-dire les compétences, un vrai travail, à savoir vous faites quelque chose parce que vous avez des vraies compétences. Et c'est ce que David Graeber a appelé les emplois à la con, qui sont là des emplois qui servent à rien, où on occupe les gens un peu dans des systèmes vides. Mais est-ce que c'est ce problème, cette machine à chômage, ce moment où l'intégration de la jeunesse est cassée, est-ce que c'est un problème purement français ou est-ce qu'on le retrouve ailleurs en Europe? Est-ce qu'il y a des pistes qui ont été faites en Europe du Nord, en Allemagne, en Espagne, on parle de 25% au chiffre de chômage de la jeunesse. Quels sont les exemples là autour de nous?
Alors, il y a des exemples qui marchent. Alors, on critiquera toujours les exemples étrangers parce qu'ils ne correspondent pas au modèle social français. Et c'est vrai que si on regarde du côté des pays nordiques, la situation est complètement différente. Sur le système français, on est sur un modèle linéaire, où on a un temps d'études et ensuite un temps d'insertion sur le marché du travail. Sur les pays nordiques, on a un temps d'aller-retour, où on a le droit à la fois d'être dans le système éducatif et ensuite d'aller un peu se tester sur le marché du travail et de revenir. C'est même pas la question de l'apprentissage, c'est le système qui est organisé comme ça. Où effectivement, vous avez 22 ans, vous en avez 18, vous vous interrogez sur votre avenir et ce que vous avez envie de faire, vous n'êtes pas certain d'avoir à 22 ans effectivement une idée précise du métier. En plus, vous savez que vous allez changer probablement souvent d'emploi, en tout cas. Vous avez le droit d'arrêter vos études, d'aller sur le marché du travail, de vous dire finalement, ça ne me plaît pas, je veux revenir. Mais au moins, vous avez une connaissance précise du marché du travail et de son fonctionnement. Et ça, c'est le modèle nordique. Mais du coup, sur le modèle français, on est sur un modèle linéaire où on a un temps d'études. Et maintenant, ce dont on s'aperçoit, c'est que le temps d'études s'arrête. Donc, vous avez fini vos études, vous vous insérez sur le marché du travail. Et c'est la phase d'insertion sur le marché du travail qui s'allonge. Il faut l'acter. C'est une phase qui existe. Et il faut l'acter en tant que tel. Donc il faut protéger aussi l'insertion des jeunes sur le marché du travail. Et sortir de ce discours qui est porté par quelques économistes où la jeunesse sert de variable d'ajustement sur le marché du travail, de même que les deux bouts du marché du travail, jeunesse et senior, voilà, servent de variable d'ajustement sur le marché du travail. Ce qui doit être maintenant, et c'est ce qu'on propose dans l'ouvrage, c'est qu'il faut acter cette phase comme une phase de transition. puisque c'est une phase de transition. Aujourd'hui, on sait que la donne est 70% des entrées sur le marché du travail se font en CDD. Il faut sortir aussi du carcan de ce débat un peu flou sur le CDD, le CDI, ce qui protège et ce qui ne protège pas, et donner la contrepartie de ce qu'on attend d'un CDI, c'est-à-dire l'accès au logement et l'accès au marché du crédit. Donc une manière de faire, et qui est expérimentée de temps en temps sur des territoires, c'est de se dire, un jeune qui s'insère, ce qu'il attend de son contrat de travail, en tout cas la contrepartie à un travail, c'est d'avoir accès à un logement. Donc donnons-lui l'accès au logement, garantissons-lui l'accès au logement, et en contrepartie, effectivement, il pourra accepter des contrats dont on dit qu'ils sont précaires, mais la précarité, on l'aura enlevée, puisqu'il y aura en partie ce filet de sécurité qui est assis sur le logement. Et ça permet justement de se tester, de s'expérimenter sur le marché du travail, d'entrer dans cette économie des compétences qui est ouverte par l'économie collaborative, mais de manière plus sereine. De même qu'on peut y entrer sur l'emploi salarié, puisque le vrai sujet, il est là. Tout le monde peut monter son entreprise aujourd'hui avec les contrats d'auto-entrepreneur. Par contre, dans l'emploi salarié, il est difficile de dire, une fois qu'on a décroché un CDI, finalement, l'emploi ne me plaît pas. Je vais en changer. Il est très facile de s'exposer effectivement à la précarité quand on est en CDD, puisque la durée du contrat est déterminée. Ouais. Par contre, si on inverse un peu la logique, et c'est un peu ça le nœud de la proposition, c'est donner cette garantie de logement qui permet effectivement aux jeunes de se tester, mais de se tester sur des boulots qui les intéressent, pas de se tester de manière alimentaire en se disant je cumule pas mal de CDD et une fois que j'aurai un CDI, je m'y accroche parce que c'est la seule manière d'avoir une autonomie.
Donc ça, c'est une des premières solutions, le droit au logement des jeunes pour leur permettre d'avoir cette sécurité qui leur autorise la flexibilité sur le marché du travail. Il y a quatre propositions qui sont fortes dans ce livre. La première étant ce droit au logement des jeunes. La deuxième, c'est aussi sur la santé, sur à la fois deux postes importants, la prévention, le bien vieillir. Est-ce que vous pouvez en parler sur cette approche par rapport à la santé liée au travail? Ça peut paraître étonnant, mais comment vous le définissez?
C'est vrai que dans cet ouvrage, on a construit effectivement une proposition autour de l'évolution du contrat social, avec une partie complètement, en tout cas on pense qu'une partie du contrat social doit être remplacé par des contrats, on appelait ça des contrats donnant-donnant entre les générations. Puisque la croissance n'est plus là pour alimenter le contrat social, il faut bien que la contribution des générations et ce qu'ils en retirent soit repensée dans le contrat social. Et c'est ce qu'on a voulu construire. Donc dans un premier temps, sur ce deal de transition sur le marché du travail, puisqu'on ne connaît pas les mutations du marché du travail, et aussi dans le domaine de la santé, de la retraite et de la formation. Et dans le domaine de la santé, ce qui est assez flagrant, c'est qu'on a ce clivage intergénérationnel, où à juste titre, les bien portants financent ceux qui sont moins importants. Et les moins importants aujourd'hui, ce sont plutôt les personnes âgées, qui consomment effectivement trois fois plus de dépenses santé que la part des actifs. Et en même temps, c'est assez légitime, donc on ne va pas remettre en cause la manière de financer la santé. Par contre, ce qu'il faut repenser, c'est la manière de la financer intergénérationnellement. Donc aujourd'hui, on finance, en tout cas les actifs financent, on a l'impression qu'il n'y a pas de contrepartie. Puisqu'effectivement, ils sont plutôt en bonne santé et qu'ils n'ont pas de sujet de santé particulier, que les dépenses de santé, elles sont à moitié couvertes, en tout cas le reste à charge. La question qui est posée à la société française, c'est un peu cette défiance vis-à-vis des institutions. Quelque part, cette défiance, elle existe aussi parce qu'ils n'ont pas l'impression de payer pour quelque chose. Et donc, dans l'idée de l'ouvrage, on s'est dit tout simplement, de manière assez simple, puisqu'on entre dans cette société de la longévité et du bien vieillir, que ce qu'attendent les plus de 60 ans, c'est de vieillir en bonne santé et avec une prise en charge décente des risques de dépendance. Que ce qu'attendent les actifs, c'est de continuer aussi à travailler et à vieillir en bonne santé, d'avoir accès à ces 25 années d'espérance de vie à 65 ans. Ça, c'est une promesse peut-être qu'on peut essayer de tenir. Mais pour la tenir, il faut afficher les contreparties à leurs dépenses de santé aujourd'hui. Et une manière d'afficher les contreparties, c'est de se dire, ce qui pèse aujourd'hui sur les actifs, ce n'est pas tant le risque de maladie, c'est plutôt effectivement des maladies professionnelles. Donc l'enjeu, c'est plutôt celui de la prévention. Et puis quelque part, de réparer aussi l'inégalité de base sur le financement aujourd'hui de la santé, qui est la CSG un peu plus faible du côté des actifs, des retraités, pardon. Ouais. Et donc de réaligner, réaligner le 1 point de CSG d'écart entre la population retraitée et celle des actifs. Donc il y a déjà cette inégalité de base. Et puis de l'autre côté, renforcer le volet prévention sur la partie des actifs, puisque effectivement, les risques auxquels ils s'exposent aujourd'hui, les solutions sont en grande partie du côté de la prévention.
Tout à fait. Et sur une autre solution qui est posée dans le livre, c'est l'épargne retraite. Alors, c'est un vieux serpent de mer, mais comment vous envisagez cette solution de l'épargne retraite pour tous?
Alors, c'est vrai que c'est un vieux serpent de mer. C'est quand même, ça fait 20 ans de débat sur comme le système de retraite français, réforme structurelle, réforme paramétrique, réforme du régime en points pour aller vers les comptes notionnels dans les pays nordiques, ou gardons le système tel qu'il est, puisque finalement, il fonctionne plutôt bien. Alors, sur l'analyse du système de retraite, ce qui est assez paradoxal, c'est ce qu'on ne dit pas. Aujourd'hui, le système de retraite, il nous faut à peu près un point de PIB, et il est intégralement financier. Ça veut dire que l'équilibre financier du système de retraite, il tient peu ou prou. En fait, il tient plutôt bien même. Quand on dit beaucoup, c'est un chouïa près, à 1% de PIB, il tient. Et donc 1% de PIB, c'est pas beaucoup. C'est effectivement augmenter un peu les taux d'activité des seniors. Et puis reculer un peu. Ah ben, il tient pour longtemps. Parce qu'en fait, les réformes passées, et c'est ça le nœud sur lequel on ne discute jamais. Les réformes passées du système de retraite, elles ont plutôt bien fonctionné. La réforme de 93, qui désindexe effectivement le niveau des pensions et qui l'indexe sur l'inflation, qui désindexe des salaires, qui l'indexe sur l'inflation, ça crée un décrochage mécanique des niveaux de vie à horizon 2030, 2040, 2060. En plus de. C'est l'effet longévité. Donc, d'une manière générale, ce qu'on ne perçoit pas, c'est la réforme de 93 crée effectivement cette désindexation. Donc il y a un décrochage mécanique du niveau de vie qui est lié à la désindexation et qui est lié aussi au fait qu'on vive plus longtemps. Sur le fait qu'on vive plus longtemps, la réforme Fillon introduit effectivement ce recul de l'âge de départ en retraite de manière progressive. Ce qui fait que finalement les ratios démographiques sont maintenus. On a gagné 25 années d'espérance de vie, on continue à gagner un trimestre par an. On va essayer d'augmenter au fur et à mesure l'âge légal de départ en retraite pour qu'on maintienne à peu près cette proportion d'actifs qui travaillera un peu plus longtemps, en même temps que l'espérance de vie et la durée de retraite sera à peu près la même. On est d'accord sur ça. Donc 93, ça crée ce décrochage mécanique, sauf qu'on n'en parle pas. 93, la réforme passe comme une lettre à la poste. Aujourd'hui, ce qui fait tenir le système, c'est quelque part la réforme de 93, donc on ne va pas revenir dessus. Par contre, ce qu'elle fait, de manière très objective, c'est qu'aujourd'hui, on a une parité de niveau de vie entre les retraités et les actifs. C'est de 100%. Donc, on a une parité parfaite. Ça va encore durer 10 ans. C'est la montée en charge des réformes. À l'horizon 2030, on a un décrochage progressif qui commence à s'organiser. Ça veut dire que le niveau de vie des retraités ne représentera plus que 80% du niveau de vie des actifs. Sauf qu'à l'horizon 2030-2040, c'est la génération aujourd'hui d'actifs sur le marché du travail qui aura ce décrochage de niveau de vie.
C'est toujours les mêmes.
Voilà. Et c'est toujours la génération des actifs. Et c'est cette question qu'il faut poser. Et c'est ce prisme-là qu'on a voulu prendre dans l'ouvrage. C'est cette question un peu intergénérationnelle sur la question du contrat social. Quelque part, à un moment, des actifs contribuent, ou des retraités, des individus, des citoyens contribuent à un système. Le système social français. Qu'est-ce qu'ils en retirent comme contrepartie et qu'est-ce qu'on peut afficher comme contrepartie? Aujourd'hui, le système de retraite affiche une contrepartie qui est 80% du niveau de vie. Un décrochage de niveau de vie de 20%. Ce qu'on propose, nous, de manière assez simple, c'est que, évidemment, que les actifs vont continuer à contribuer. Par contre, aujourd'hui, c'est bien les actifs qui maintiennent le système, la pérennité du système de retraite. Et ça, il faut l'acter du côté des retraités. Et donc, si ce sont les actifs qui maintiennent la pérennité du système de retraite, du côté des retraités, il faut aussi acter que peut-être il faut compenser en partie le décrochage de niveau de vie de 80%. Et donc, une manière de le compenser, ce serait de monter un fonds de capitalisation ou une réserve provisionnée avec un ratio, disons, de 90% pour le système de retraite en répartition, 10% pour un fonds de capitalisation collectif qui permettrait en partie de compenser le gap de niveau de vie. Donc, cette lecture intergénérationnelle, elle apporte juste d'autres marges et d'autres sources de financement, qui sont que ce n'est pas parce qu'on est retraité que finalement on ne peut plus contribuer au contrat social.
Oui, parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que c'est une caste à part qui a fait son boulot, qui a donné ce qu'il y avait à donner et qui est complètement protégé à la fois par les politiques publiques, par la capacité qu'ils ont aussi de se mettre ensemble et qui ne souhaitent pas être appelés à contribuer à hauteur de ce qu'ils pourraient faire. On parle aussi d'un écart énorme entre retraités. Il y a des très petites retraites et des très grosses retraites. Ça non plus, il n'y a pas de travail sur cette homogénéisation.
Alors c'est vrai, et à chaque fois l'argument est avancé qu'on ne peut pas faire payer les retraités parce qu'il y a quand même un taux de pauvreté qui est quand même élevé parmi la population des retraités. Le taux de pauvreté parmi la population retraitée, c'est 8%, ce qui est beaucoup plus faible que le taux de pauvreté de la population des actifs et la population des jeunes. Exactement. Et donc sur cette période qui est 79-2010, on a eu une régression très forte, une diminution très forte du taux de pauvreté parmi les retraités qui descend aujourd'hui à 8%, alors qu'il est le double parmi la population des jeunes aujourd'hui. Et donc cette espèce de statut qu'on a créé entre 79 et 2010 qui permet aux retraités aujourd'hui de jouir d'une parité de niveau de vie, qui permet aux retraités d'avoir effectivement des inégalités qui sont moins fortes que celles de la population générale, il faut donner le pendant à la population qui est plus jeune, à la jeunesse aujourd'hui. Et quelque part, les retraités, quand ils revendiquent effectivement ce droit à la retraite, avec l'âge symbolique, quand on avait vu les manifestations il y a 5 ans qui voulaient maintenir encore la retraite à 60 ans, quand ils revendiquent effectivement cette revalorisation des pensions, quelque part, c'est légitime. Et en même temps, cette revendication, elle est assise sur l'ancien contrat social, sur le contrat social de forte croissance, aujourd'hui qui n'existe plus. Donc la donne a complètement changé et on a juste oublié d'ouvrir ce débat en incluant une partie de la jeunesse dans le débat.
Il y a un corporatisme d'âge là, c'est vrai. Mais une des autres solutions, parce que le constat est fait, mais c'est aussi, et ça fait écho au débat qu'on entend sur le CPA, c'est un droit à la formation à vie. Alors justement, comment vous l'envisagez et qu'est-ce que vous pensez actuellement du CPA qui est sur la table? Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que là encore, on va dans le bon sens?
Alors c'est vrai que la création en propre du CPA, je pense qu'elle est saluée par tout le monde, c'est le contenu du CPA qui est discuté. Sur le droit de formation à vie, c'est un vieux débat aussi vraiment très français sur lequel on a fait la réforme de la formation professionnelle il y a 2 ans. Qui a créé le compte personnel de formation, qui est effectivement une bonne chose. La seconde étape devrait effectivement de le doter en nombre d'heures suffisant pour permettre effectivement cette seconde chance. Et aujourd'hui, le débat est là. Or, il y a 35 milliards sur la table, dont on sait qu'ils sont utilisés de manière très inefficace, puisqu'ils vont à la fois vers les plus diplômés et les plus jeunes. Il y a un besoin qui est réel du côté des salariés seniors, puisqu'on leur donne l'injonction de travailler plus longtemps, parce que quelque part, ils souhaitent aussi travailler plus longtemps. Mais la question qui se pose, c'est les conditions dans lesquelles ils vont travailler plus longtemps.
Quelles conditions de travail, bien sûr.
Ouais. Et un des leviers, en tout cas économiques efficaces, on sait que c'est le levier de la formation, soit pour les maintenir en emploi, soit pour les permettre de se reconvertir. Et donc il y a cette tranche d'âge un peu particulière entre 50 et 57 où les taux de formation chutent considérablement en France. Et donc une manière de faire, ce serait de réallouer une partie des 35 milliards vers cette population de 50 à 57 ans. Et nous, on l'a à peu près chiffré, donc c'est pas énorme, les montants sont pas énormes, puisque ça relève, c'est à peu près 3 milliards. Et de l'autre côté, ce qui est vrai aussi, c'est que ce droit à la seconde chance, il n'existe pas en France. On a un modèle très linéaire où soit on a réussi ses études et donc on a des possibilités de belles carrières.
C'est le diplôme qui va donner toute la tonalité de la carrière.
Exactement, et toute la tonalité de la vie jusqu'à la période de retraite. Et ça, donc c'est assez triste. Et donc ce droit à la seconde chance, aujourd'hui, il n'existe pas. Alors que c'est vrai que culturellement, on a du mal à concevoir un droit à la seconde chance. Mais de manière très opérationnelle, très pragmatique, on peut envisager que ce droit à la seconde chance, il se constitue par une année pleine de formation qui soit rémunérée et que la formation soit également rémunérée. Donc ça peut être la contrepartie, une des contreparties du CPA aujourd'hui, qui aujourd'hui est très peu dotée finalement en matière de formation. Voilà, en plus du CPF.
Très peu dotée. Une dernière question, un peu une provocation. Est-ce qu'il est trop tard? Est-ce qu'il y a un risque de guerre des générations? Ou est-ce qu'on peut sauver le contrat social français?
Alors nous, on est plein d'espoir et plein d'optimisme dans cet ouvrage. Et quelque part, on pense qu'on peut sauver le contrat social français. Mais alors, il faut un peu regarder la réalité telle qu'elle est. Donc le contrat social, en tout cas tel qu'on l'a construit, tel que le CNR l'a construit, il est dépassé dans ces institutions. Il n'est pas dépassé dans l'esprit, puisqu'aujourd'hui, je pense que le sentiment général, les Français sont très attachés à l'intérêt général et sont très attachés aux valeurs de solidarité. C'est juste qu'il faut vraiment ouvrir la question sur l'aspect intergénérationnel. Ne pas avoir juste un regard comptable en se disant qu'il y a un déficit à financer, ne pas juste avoir un regard comptable en se disant que les taux de chômage du côté des jeunes sont élevés et que de l'autre côté aussi, le taux de chômage des seniors risque d'être élevé, puisque c'est vrai que ça a augmenté depuis ces dernières années. Même si on a augmenté, on a au d'observer une augmentation des taux d'activité et des taux d'emploi, il y a une augmentation parallèle des taux de chômage. Donc les seniors et les jeunes sont de plus en plus exposés au chômage. Si on a une lecture comptable, telle qu'on le fait la plupart du temps, en matière de déficit, de dette, d'évasion fiscale, de taux de chômage des jeunes, on a une lecture un peu pessimiste du contrat social. Il y a une bonne nouvelle sur ce contrat social, c'est que sur ces années qui sont 79-2010, on a aussi gagné énormément d'années d'espérance de vie qui vont se concentrer sur la génération de baby-boom, qui sera la première génération à partir collectivement en bonne santé. Et ça, c'est un changement de donne qui est radical. Donc ça veut dire que c'est un basculement sociétal aussi, où on va vers la société de la longévité, en même temps qu'on est en train de basculer dans cette économie numérique ou cette économie collaborative. Donc certains ont dit, ça va créer de la polarisation sur le marché du travail, avec effectivement du succès pour les plus diplômés, avec un risque de précarisation et de créer des travailleurs pauvres. Et en même temps, on observe que les chauffeurs Uber, quelque part, ils ne sont pas si tristes et pas si malheureux. Donc c'est aussi notre rapport au travail qu'il faut changer. Et quelque part, ces deux générations pivots, qui sont les jeunes aujourd'hui et les seniors, ils sont en train de redéfinir le rapport au travail parce qu'ils ont un rapport au travail qui n'est plus uniquement salarié, et qui n'est plus uniquement une espèce de contribution ou de sacrifice. Certains y verront peut-être effectivement dans le terme travail une espèce de sacrifice au bénéfice d'une collectivité ou de leurs enfants. Et qu'aujourd'hui, on a une redéfinition du rapport au travail où chacun va vendre ses compétences et essayer d'y trouver effectivement sa part de créativité ou bonheur. Exactement.
C'est ça. D'où aussi le travail associatif, la façon...
D'où l'engagement dans le bénévolat, le travail associatif et ces enquêtes sondages qui montrent effectivement que les Français sont très attachés à l'intérêt général, avec différentes acceptations de l'intérêt général. Mais justement, c'est ce côté un peu clivant qui est intéressant, parce qu'à la fois, on a l'économie collaborative qui permet quelque part... ces plateformes de redéfinir l'intérêt général. On voit bien les mouvements et l'adhésion sur certains sujets de manière ponctuelle. Et de l'autre côté, et c'est vraiment ce clivage générationnel qui est marquant, mais qui est en train de changer, la génération des quinquas et plus ou des retraités, qui dans l'engagement et dans le bénévolat, voit encore un engagement physique, pérenne, en faisant des permanences, alors que l'engagement du côté des jeunes, il est ponctuel, mais il est massif. Et puis, ça crée aussi cette plateforme de dialogue qui n'est plus justement une voix ou qui donne le ton, qui est encore le fonctionnement un peu syndical, paritaire,
oui,
un peu paternaliste de la société française.
Oui.
Voilà.
Oui.
Et de l'autre côté, on a des plateformes beaucoup plus démocratiques.
Très bien. Pour une vision optimiste du futur, même si le livre s'appelle « France, le désarroi d'une jeunesse », lire ce livre qui fait la part belle aux solutions et qui explique avec des chiffres justement comment financer ces propositions. Merci beaucoup Hélène Swann d'avoir été notre invitée.
Merci.